Collective, l'émission qui explore les questions féministes. Tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois, à 18h, sur Fréquence 7.
Le monde est en train de se recomposer avec des femmes qui osent dire stop ou qui osent dire je veux une vie égale à toi.
Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive? C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder.
Bonjour, nous voici réunis sur le plateau de la collective aujourd'hui avec Vanesse.
Bonjour.
Elodie.
Salut.
Et il y a aussi avec nous Sandrine.
Oui, bonjour.
Frédérica.
Bonjour.
Et puis Anakin et Lila. Aujourd'hui, nous allons parler de famille monoparentale.
Je m'avançais pour pouvoir poser la main sur le fauteuil à bascule de mamie. Mes doigts glissaient sur le treillage usé, lisse des lattes pour sentir la chaleur de son corps à travers sa robe en coton. L'écho des rires m'entourait, tout comme la musique, les freins d'un camion crissant sur la route et le cri de quelqu'un, au loin, tandis que l'obscurité tombait et que les lucioles commençaient à clignoter, effleurant la tête des garçons. Mamie baissait le bras et m'agrippait le poignet. Elle se penchait et crachait un jus de chic brun en bas de la véranda. J'entendais le floc étouffé qu'il faisait en atterrissant sur la terre poussiéreuse. Je me glissais sous l'épaule de mamie, me penchais sur le côté de son rocking chair et approchais le visage de sa poitrine. Sur son cou, je sentais les haricots mouillés, le tabac, le jus de citron, une petite odeur âcre de pisse et aussi quelque chose de légèrement salé. « Tu sais, Bonne, ta mère va être en retard », me disait Temple. Les soirs où il fait chaud comme ça, il leur faut un temps fou pour tout ranger au restaurant, et ce Glenn va s'incruster au comptoir et la retarder. Il est vraiment fou dès qu'il s'agit de ta mère. Je faisais un signe de tête solennel, toujours accroché à mamie. La radio devenait plus sonore, les garçons se mettaient à se battre. Tout le monde était occupé, tout le monde parlait, mais je me sentais parfaitement heureuse à côté de mamie, attendant que maman rentre tard du restaurant, nous ramène, Riz et moi, dans le minuscule duplex qu'elle louait en ville. Si la chaleur se prolongeait dans la nuit, maman nous installait sur la véranda, protégée par une moustiquaire, et improvisa un matelas avec les coussins du canapé et des draps. Elle restait assise avec nous, fredonnait et fumait dans l'obscurité paisible, tandis que la radio jouait si doucement que nous ne pouvions rien distinguer. Le monde qui nous arrivait par la radio était vaste et lointain, et ne nous touchait pas du tout. Nous passions tout l'été sur une véranda ou sur l'autre, occupés à nous moquer du petit Earl, à taquiner les garçons, à trier des haricots et à écouter des histoires où le chant doux est rythmé des grillons. Quand je repense à cet été, aux nuits passées chez une tante ou l'autre, où nous nous endormions aussi facilement qu'à la maison, à l'odeur du cou de maman quand elle se penchait pour nous étreindre dans l'obscurité, au gloussement de petits hurles ou au floc du crachat de mamie sur la terre sèche, et enfin à cette musique country qu'on jouait tout doucement. Partout, composante de ces soirées au même titre que les grillons et le clair de lune. Une impression de sécurité me gagne toujours. Aucun endroit ne m'a jamais semblé aussi doux ni paisible, aucun endroit ne m'a jamais autant fait l'effet d'un foyer.
C'était un extrait de l'histoire de Bonne de Dorothy Allison. Donc aujourd'hui, à la collective, on parle de famille monoparentale. On commence avec quelques chiffres, mais pas beaucoup, promis. 25% des familles sont des familles monoparentales, et dans 82%, le parent solo est une maman. Autant le dire tout de suite, il y a autant de réalités et de pistes d'émancipation que de mères solo. Cette idée sera d'ailleurs au cœur de notre émission aujourd'hui. Mais l'élément commun aux mères solo, c'est qu'elles sont au croisement de deux situations spécifiques. Elles sont seules, à temps plein ou en alternance, selon le mode de garde et la présence ou non d'un coparent, à gérer les enfants. Mais elles sont aussi des femmes dans une société qui est régie par des lois et une culture patriarcale. C'est-à-dire que leur situation est comme un miroir grossissant des inégalités subies par les femmes dans notre société. Elles sont les principales victimes du mal logement, occupant des postes moins bien payés, à horaires décalés, dans les métiers du care par exemple, à temps partiel, assumant tout ou grande partie du travail domestique et parental. Donc, autant dire que malgré l'envie et l'ingéniosité déployée par toutes ces femmes pour construire une vie de famille heureuse, le parcours est semé d'embûches.
Nous avons rencontré Marion Parra, qui travaille à l'école des parents et des éducateurs et qui est aussi sociologue, elle-même est mère solo, et elle a écrit une thèse qui porte sur les rapports sociaux de domination et sur la monoparentalité. Elle y explique en quoi les mères solos sont invisibilisées au profit d'une norme de la famille « bonne », entre guillemets, qui serait une famille biparentale, hétérosexuelle et biologique. C'est-à-dire que le modèle de référence, c'est un papa, une maman, qui sont les géniteurs et génitrices naturelles, et basta. Mais ce que Marion met en avant dans sa thèse, c'est aussi comment ces femmes bousculent les normes, créent de nouveaux modèles. Elle dit des mères solos qu'elles innovent un autre idéal type de la famille, à partir de la marge sociale à laquelle elles sont assignées. Elles bousculent les limites déterminées par le repère central, que serait la biparentalité hétérosexuelle, biologique et productive. En parallèle de cette thèse et dans le cadre de son travail à l'école des parents et des éducateurs, Marion Parra anime un temps d'échange où sont invitées à venir les mamans qui sont en solo avec leurs enfants, que ce soit tout le temps ou en alternance avec l'autre parent. Cet endroit s'appelle les Mères Roseaux. Ça nous a amené à faire la connaissance de Frédérica et Sandrine, qui sont nos invitées aujourd'hui et qui ont bien voulu nous raconter leur parcours, venir à la collective répondre à nos questions.
On est très contente de vous accueillir, Frédérica et Sandrine. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et puis nous expliquer un peu ce que c'est que les Mères Roseaux ?
Alors, moi, c'est Frédérica, maman solo de 5 enfants. Je ne sais pas si je peux dire mon secteur, je suis dans l'Argentière, à l'Argentière. Et j'ai rencontré Marion il y a déjà 3 ans, je dirais, avec des propositions de groupe de maman solo par le PE07. Donc, le PE07 a... créé, ça date d'il y a déjà longtemps, d'après Marion, ce qu'elle m'avait dit, depuis 2016, les premiers groupes de mamans solo. Et aujourd'hui, elle a, que je vous dise pas des bêtises, sur toute l'Ardèche, à peu près 6 ou 7 groupes qui accueillent les mamans solo. Donc Marion Parra s'y rend une fois par mois pour chaque groupe. Et là-bas, on se retrouve entre mamans, voilà.
Eh bien, moi, je suis Sandrine, je suis mère de 3 filles. Voilà, je suis sur le secteur de Vallon-Pont-d'Arc. Je vais aux réunions des mères solo, des mères roseaux depuis, c'est la 3e année. Et j'ai découvert ça par une copine qui elle-même est mère solo. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu viennes. Donc, j'y suis allée et je ne regrette pas et je pour rien au monde, je ne rate ces rendez-vous. Voilà.
Merci. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, la première fois qu'on vous a rencontré, Frédérica, tu nous as dit qu'en tant que mère solo, il y avait un truc qu'on te renvoyait tout le temps, c'est que tu étais forcément louche. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là ?
Bah, louche, parce que moi, dans mon cas, je choisis d'être maman au foyer. On prône quand même beaucoup je parle au niveau de l'État et tout, que la maman puisse se développer au niveau de l'emploi et autres. Et là où moi, dans mon cas, ça bug, et comme peut-être beaucoup d'autres femmes, je fais le choix d'être mère au foyer tout en ayant des obligations à côté d'aller vers l'emploi. Donc ça pose un vrai problème à l'intérieur de notre famille, d'être obligée de s'expliquer au niveau des travailleurs sociaux et un peu partout. Et pour revenir à ta question qui était...
De paraître louche,
Que ça se passe bien. Que je sois maman solo, mère au foyer qui revendique donc d'être mère au foyer, même si c'est compliqué, mais épanouie, et que en général on cherche facilement ce qui pourrait ne pas aller, c'est au lieu de penser que ça se passe bien.
Oui, moi le côté louche, je l'ai vécu plusieurs fois, dans le sens où on me dit, étant mère solo, c'est louche de pas avoir un homme dans sa vie en fait. Et c'est ce côté-là aussi où, entre guillemets, on n'est rien si on n'a pas d'homme à ses côtés. Et ça, c'est insupportable. C'est déprimant quand on dit que là, maintenant, avec les années, ça fait 17 ans que je suis mère solo, avec les années, je effectivement, je ne veux plus être dans ce schéma d'avoir un homme à la maison. Je dis pas que je veux pas être amoureuse ou quoi, hein, c'est pas le sujet. Mais voilà, et à chaque fois, on me disait, mais c'est louche quand même. Donc on me disait, mais... T'es quoi, du coup, t'aimes plus les hommes, t'es ultra féministe. Je suis cataloguée dans les ultra féministes parce que je n'ai pas d'homme à la maison. Et ça n'a rien à voir. En plus, moi, je suis Donc on forme avec mes filles, on est 4 nénettes à la maison. Donc autant vous dire que tout ce qui est par rapport au féminisme, à l'égalité, au combat que mes filles doivent mener aussi dans cette société, oui, forcément, on a des discours portés là-dessus. Voilà, quoi. Mais le côté louche, ouais, c'était... ouais, c'est louche qu'une femme n'ait pas d'homme à la maison, quoi.
Voilà. Comme si vous aviez loupé quelque chose.
Voilà, comme si j'étais forcément moins bien, et il y avait un truc qui clochait en moi, quoi. Voilà, je dois pas être normale.
Ça, c'est plutôt, du coup, dans la sphère personnelle. Ouais. Et au niveau professionnel, et très concrète, en fait, le regard que portent les institutions, ça donne lieu, des fois, à des situations compliquées.
Oui. Si je peux me permettre, Frédérica, je me suis... Donc moi, j'étais infirmière en secteur psychiatrique et tout ça. Et puis après, quand le papa de mes filles est décédé, etc., enfin bon, je me suis retrouvée toute seule. J'étais infirmière libérale. Donc j'arrivais plus ou moins à travailler un peu moins que la normale, enfin, à l'hôpital. Mais je me suis vue, moi, plusieurs fois, emmener mes mômes sous le bras parce que j'avais une urgence ou quoi. Enfin, bref. Et donc, après, j'ai décidé de changer de métier et donc de devenir ouvrière agricole. Et je me suis inscrite à Pôle emploi, chose que je n'avais jamais fait avant. Et quelqu'un me dit, mais tu dois avoir droit à un peu de chômage, peut-être pour t'aider un peu le temps que tu te retournes. Moi, j'avais demandé de l'aide à personne. Donc, je m'inscris au chômage et donc j'ai un rendez-vous avec une conseillère. Et je lui explique que, voilà, maintenant, je suis ouvrière agricole, mais il y a des temps, des mois où je ne travaille pas parce qu'il n'y a rien à faire. Donc, j'aimerais bien trouver un petit complément pour ces mois-là. Voilà, et elle me dit, mais vous, je vois que vous étiez infirmière. J'ai dit, oui. Elle me dit, bah, pourquoi vous ne reprenez pas votre boulot d'infirmière? Je dis, bah, déjà, où j'habite, c'est vraiment perdu. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a rien. Donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve des nounous. Je dis, maintenant, si vous me trouvez un boulot d'infirmière 9h-17h, je le prends. Et elle m'a dit, mais dans ce cas-là, travaillez de nuit. Mais je lui dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? Moi, je vous dis que mes filles... Enfin, voilà, on est toutes seules, on n'a plus de famille, tout le monde est décédé. Et donc, vous me dites que je dois laisser mes filles seules la nuit pour aller travailler. Je dis, mais on ne règle pas le problème. Et je dis, après, ça va être les institutions qui vont... Je vais avoir enquête sociale, machin, on va retirer mes mômes parce que je ne suis pas avec elles la nuit. Mais je dis, mais c'est complètement inconscient, quoi. Donc, depuis, j'ai laissé aller. Je dis oui et on ne m'embête plus trop, quoi. Enfin, maintenant, je n'ai plus droit à rien. Donc, de toute façon, comme ça, c'est clair. Mais voilà, des trucs incompréhensibles, quoi. Tiens, mais voilà, j'ai qu'à laisser mes mômes seuls la nuit.
Et moi, vas-y, finir. Vas-y, et moi, sur le sujet pro, bah, tu me permets de rebondir. Là, moi, le truc louche, c'est que je revendique carrément que je travaille déjà et que jusqu'à aujourd'hui, c'est encore très compliqué. Je vais faire court de dire, est-ce que vous voyez pas déjà, Marion Parra m'y a aidé en me faisant une monographie que j'arrive à transmettre aux travailleurs sociaux ou au Pôle emploi, qui diagnostique bien un plein temps tout vu, archi tout vu, voilà, et que moi, il me paraît dans mon fort intérieur, et certainement pour plein d'autres femmes, pas admissible que on soit pas soulagé, reconnu, apaisé, que on travaille déjà. Donc ça, au niveau pro, moi, ça m'hallucine. Voilà.
On va revenir là-dessus dans un instant. Peut-être qu'avant, on écoute une chanson et puis on se retrouve tout de suite après. C'est Mama de Kolinga.
Beautiful seas that have sold in
En 1973, des militantes féministes, dont Silvia Federici, réclament un salaire pour le travail domestique. À l'époque, cette revendication va surprendre, voire choquer, puisqu'on est à un moment où on lutte plutôt pour l'accès des femmes aux postes rémunérés. Le manifeste commençait ainsi.
Continuer de propager l'image de la femme travailleuse opposée à celle de la ménagère, c'est continuer de propager une des plus graves erreurs du mouvement ouvrier, celle de ne pas avoir impliqué toute la famille dans la lutte. Nous osons réclamer autre chose que du travail et revendiquer que toutes ces heures de travail gratis que nous faisons au ménage soient rétribuées et avec un effet rétroactif. C'est par le travail des femmes que le monde tient debout. Nous n'avons pas à prendre conscience de notre oppression, mais de notre pouvoir. Osons l'utiliser pour attaquer le capital.
En 2021, dans l'article « Du salaire ménager à la politique des communs », Silvia Federici revient sur ce moment.
Notre demande était un instrument non seulement pour obtenir des ressources, le paiement des tâches domestiques, mais pour démontrer qu'il s'agissait d'un travail et que le gouvernement et toute la classe capitaliste en tiraient profit. Il s'agissait de mettre en lumière la fonction de ces tâches et de dénoncer le vol du travail des femmes perpétré pendant des générations. Nous voulions changer la conception des tâches domestiques, redéfinir à la fois la fonction de ce travail et de la travailleuse. Cela a permis de mettre au jour tout un domaine d'exploitation dissimulé. Nous avons aussi pu constater que même lorsque nous travaillons en dehors du foyer, nous étions traités comme des femmes au foyer. En raison de leur absence de rémunération, les tâches domestiques ont été biologisées. Le salaire au travail ménager était donc une revendication transformatrice. Elle changeait notre relation à ce travail. Nous avons demandé un salaire pour changer notre relation à la classe capitaliste et parce que nous avons constaté que beaucoup de femmes avaient désespérément besoin d'avoir leur propre revenu. Elles n'avaient pas d'autre choix que de faire ce genre de travail. Elles avaient des enfants en bas âge et ne pouvaient pas trouver un emploi en dehors du foyer. Si elles en trouvaient un, il s'agissait encore de tâches domestiques pour la majorité d'entre elles. Elles devenaient femmes de chambre, puéricultrices, infirmières. Notre but était également de briser la division sexuelle du travail, d'amener les hommes à prendre en charge ces tâches. En somme, la demande de salaire visait à transformer la conception générale du travail domestique et à changer la vie de nombreuses femmes qui se disaient prisonnières du foyer parce qu'elles n'avaient pas de revenus. Pour subvenir à leurs besoins, elles devaient laisser leurs enfants, prendre un deuxième emploi mal payé et, au final, elles n'avaient plus de vie. Alors nous avons dit, nous ne trimerons pas sans être payés, non au travail non rémunéré. Nous savions que partout où nous allions, nous devions sortir notre portefeuille. Partout où nous allions, il fallait avoir de l'argent. C'est la barrière érigée entre nous et notre reproduction. Et dans cette société, la question est de savoir comment en obtenir. Nous ne vivons pas en dehors des relations monétaires, même lorsque nous ne travaillons qu'à la maison.
On se demandait si vous aviez envie de réagir à ça, à ces questions autour de la reconnaissance du travail domestique.
Ouh là là, vaste sujet. Donc, moi, par rapport au travail domestique, effectivement, dans une réflexion globale, moi je me dis, déjà on est fille, déjà t'as pas tiré le gros lot, quoi, dans la société dans laquelle on est. On grandit, on a des enfants. Donc effectivement, on a tout ce boulot à la maison qu'on prend, parce que quelque part, c'est presque inscrit. On fait beaucoup des boulots où on prend soin des autres. On se retrouve là, on prend soin aussi de nos enfants, de la famille. Et souvent, ce qu'on entend quand on a un mec qui fait des choses à la maison, c'est « qu'est-ce qui t'aide ?» C'est pas ça ce qu'on veut, quoi. C'est effectivement, on est tous à égalité. Après, dans le monde du travail, si on prend le monde du travail, en dehors des familles monoparentales, un mec et une fille au même poste, ils touchent pas la même chose. On est moins bien rémunérés. Après, quand on a des enfants, qui c'est qui prend les congés parentaux, etc. C'est les femmes. On se retrouve avec des carrières hachées, des boulots moins bien payés, et au bout du compte, quand arrive la retraite, on est encore plus, on nous met encore plus pauvres que les hommes. Après, quand il y a séparation, alors je vous raconte pas parce que il faut donc demander une pension alimentaire qui, sauf les familles aisées les gardes, les machins, ça ne pose pas de problème parce qu'il y a de l'argent pour compenser tout ça. Mais nous, on se retrouve avec encore plus de misère. Et en plus dans une obligation de justifier et de réclamer tout le temps, ce qui est insupportable, quoi. C'est insupportable. Donc, en fin de compte, jusqu'au bout, on nous rabaisse, quoi. On nous met en bas, on n'est pas reconnu, on n'est pas valorisé. Enfin, voilà, on vaut la même chose que tout le monde, quoi. Donc voilà. Et après, bah, effectivement, tout ce qui est charge mentale, quand on est seul, on en parlait avec Frédérica tout à l'heure, c'est énorme, on est tout le temps. Et moi, je dis, en fait, d'être parent solo, on ne peut jamais déléguer. On ne peut pas dire « stop ». Vois ça avec ton père ou ta mère, ou voilà. C'est, on prend tout, il faut tout le temps qu'on soit dispo et tout ça, on charge et on n'a pas de moment, on n'a pas de moyen de faire des pauses, sauf, enfin, je dirais pour moi maintenant, le réseau des mères solo avec les réunions des mères roseaux, donc où c'est un lieu qui moi me fait énormément de bien. Donc voilà, et donc cette charge mentale, ça, au bout du compte, moi, ça fait 17 ans, je peux vous dire que mes neurones et mon physique, même physiquement, je suis usée, quoi. Et moi, j'ai deux filles qui sont parties de la maison, donc j'ai moins de charges, que ce soit au niveau des courses, des repas, du ménage, du machin, de tout ça, et de voir les sorties, les allers-retours, le taxi. Mais donc ça m'allège, hein. Mais je me dis, mais comment j'ai tenu tout ça? Et c'est maintenant que je me rends compte que tout ce qu'on a porté, quoi, tout ce qu'on porte quand on est mère solo, et on le fait parce que c'est comme ça, quelque part, on n'a pas le choix. Et puis, moi, j'avoue, j'aime ça. J'aime ma vie de mère solo avec mes enfants.
Et toi, Frédérica, il me semble que tu revendiques le fait d'être mère au foyer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'en es venue à affirmer ce choix, et puis aussi quels sont les freins que tu rencontres?
Déjà, si on rebondit sur l'article que tu as lu, c'est déjà des revendications en fait de longue date. J'invente pas grand chose en me battant encore aujourd'hui pour le travail domestique qui doit être valorisé. Là, on est sur la monoparentalité, mais c'est aussi même pour les femmes qui sont en couple. C'est voilà, j'en parlais avec Marion Parra de l'EPE. Des fois, je disais, les meufs qui sont en couple, elles peuvent pas partir. Enfin, tout, bref. Et le vrai sujet, charge mentale plus précarité, c'est instillé par la société. Et il y a vraiment beaucoup à faire pour nous soutenir, pour rebondir sur ce que t'as dit, Sandrine, qu'on n'ait pas ce sentiment de toujours lutter, voilà, militer. Moi, je milite. Voilà, j'avoue, je milite par défaut pour moi, pour mes enfants, aussi parce que j'aime bien être maman, mais ça, on ne devrait pas être usé comme ça pour... c'est des droits, pour vraiment rebondir sur l'article que tu as lu, là, tout de suite avant. Normalement, de longue date, le travail domestique devrait être reconnu.
Et concrètement, voilà. Quand tu dis que tu milites par rapport aux institutions,
Je vais au maire Roseau. Alors là, ça me vient pas là tout de suite, mais en invisible, j'ai l'impression de faire voilà. On y retourne encore. J'ai l'impression en invisible d'être une vraie militante. Voilà, là, ça va vraiment dire la vraie chose. Toute ma vie, tout le temps, avec mes enfants, partout, dès que je peux, je milite pour la position de la maman, de la femme, déjà, même quand elle est en couple, je le redis, pour qu'elle ait le plus de liberté et qu'elle n'ait pas toutes ses soumissions domestiques. Et moi, encore plus en tant que maman solo, parce que je fais tout.
Et concrètement, quand tu te confrontes aux institutions, à la CAF, à France Travail...
Ça dépend des interlocuteurs. Là, par exemple, on a fait les assises de la monoparentalité qu'on a préparées en janvier 2024. C'était hyper fatigant et hallucinant qu'on a l'impression d'être arriéré, quoi. Les travailleurs sociaux, certains étaient là, de la CAF étaient là, nommés tous de la monoparentalité, tout ce qui va pas, et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que ça avance pas. Donc pour retourner à ce que Sandrine a dit, il y a encore obligé de vraiment militer partout, au Pôle emploi, avec les travailleurs sociaux, pour faire comprendre qu'une femme qui peut a le choix de travailler, elle peut, et que les autres, soit on les laisse tranquilles, on les accompagne et on les invite pas à faire des choses obligatoires. Parce qu'on est déjà rempli d'obligations et c'est de longue date pour beaucoup de sujets et qu'il y a beaucoup à faire.
Et du coup, voilà. Du coup, celles qui font le choix, comme toi, Frédérica, d'être mère au foyer, ben, effectivement, de toute façon, avec 5 enfants, excusez-moi, mais bon.
Déjà, je vois pas où j'irai
ailleurs. Voilà, où est le temps pour faire autre chose. Mais faudrait absolument que ce travail, que ça soit reconnu comme un travail. Et que donc, ça donne des droits. Ça donne des droits pour ensuite, pour la retraite, etc.
C'est ça.
Parce que mine de rien, dans 20 ans, dans 15 ans, au moment de la retraite, voilà.
J'ai déjà fait les calculs, j'ai rien.
Ben voilà.
40 euros par mois, alors il y a leur fameuse retraite qu'on a là, d'office, machin. Mais si même c'était qu'au niveau du concept, ça se fait pas. Déjà, ça se fait pas. Là, va falloir revisiter le truc parce que on le voit partout. Hein. Si on devait calculer le salaire d'une mère au foyer et de ce qu'elle fait, même si on met dans le couple, moi, je suis riche. Si en plus on fait ce que t'as dit dans le truc là, de l'article que t'as lu, un rétroactif, mais le pactole, moi, mes enfants, ils héritent, c'est un truc de fou. Moi, j'en rêve. Voilà.
Est-ce que ça a pu jouer sur justement vous faire renoncer à demander des aides? Pour qu'on vous laisse.
Ah, moi, oui.
Ouais, moi aussi.
Moi, oui, parce que quand on a des retours comme ça de, voilà, quelqu'un qui veut me faire bosser de nuit, que je laisse mes enfants seuls, etc. En plus, moi, je suis très, très mauvaise pour trouver les infos. Enfin, moi, si on me dit pas, mais t'as le droit à ça ou quoi, je vais pas chercher, je me débrouille, quoi. Mais les seules fois où j'ai fait appel, où j'ai demandé de l'aide à des institutions, vu ce qu'on me répondait, je me suis dit, mais mon Dieu... Mais ça va être encore pire. Hein. Enfin, je veux dire, là, je vais avoir enquête sociale. Il suffit que, si je décide d'être infirmière de nuit, ben, mes mômes tout seul, le voisin qui le sait, et ça met un grain de sable dans l'engrenage et on va me séparer de mes mômes. Parce qu'il y a ça aussi, le fait d'être mère solo, on a l'impression qu'on a presque... on est encore plus jugé sur l'éducation des enfants et le résultat. Bon, on a des mômes qui vont aussi bien que les enfants des familles qui sont pas monoparentales. Ils vont pas moins bien ou mieux. C'est pareil. Donc voilà, mais on est presque, je me sens presque plus surveillée ou que j'ai moins le droit à l'erreur, etc. Donc moi, j'ai fini par dire ok, on se démerde, quoi. Voilà. Donc je fais appel. Je fais pas appel. Je me débrouille. Et c'est ce que je fais, quoi.
Et moi, c'est l'inverse. Moi, je demande un max partout parce que j'estime que je le mérite. Et par contre, je sens bien que c'est une position un peu de force, un peu partout, que je n'hésite pas à faire pour faire le chemin des autres femmes après moi, parce que c'est obligatoire. Mais on marche encore sur des œufs quand même, parce qu'en s'imposant avec travailleurs sociaux un peu partout, et comme c'est minoritaire, c'est ce que je le disais avec les assises de la monoparentalité, et les collectifs qui se font en France, il y en a un là dans le 93 des mères isolées, on est encore minoritaire. C'est un truc de dingue. Donc alors, quand on va pour s'imposer, pour demander des trucs qu'on devrait avoir, qui semblent évidents, comme là, le fameux article que moi j'adore là sur on veut être rémunéré pour le travail domestique, ça passe pas bien non plus d'être militante du coup. De dire ben, c'est évident, moi j'ai fait un peu ton inverse. Mais du coup, faut se tenir à carreau aussi. Ce qui se dit, c'est qui celle-là?
C'est... Peut-être pour terminer sur cette partie et puis qu'on passe un peu à la suite, rappeler que, parce que je sais qu'on en avait discuté ensemble, ce que vous dites, c'est pas forcément que les travailleurs et travailleuses sociaux
tout
font mal leur travail,
tout
mais qu'ils n'ont pas forcément les moyens
tout
de
à
le
fait.
Faire
tout
d'une
à fait.
Manière vraiment aidante.
Bah, complètement, puis en plus, c'est on a vu au moment des assises de la monoparentalité que les acteurs sociaux, eux, que ça soit Pôle emploi ou quoi, ils ont des directives, c'est remettez-les au boulot, quoi. Et Donc voilà, c'est vraiment...
C'est vrai qu'on n'a pas le temps de parler dans l'émission de tout ça, mais c'est vraiment important de le dire. Le peu de travailleurs qui étaient aux assises, ils avaient le cœur en vrac par un manque de moyens, des choses qui les atterraient. Ils connaissent les fameuses IP, informations préoccupantes qui peuvent pendonner des familles monoparentales, parce qu'on est obligé d'en parler. Nous, on le sait... On le sait, c'est la vérité. Hein. Si on peut être, on a l'impression de que dès qu'on peut, qu'on va bouger un pied, on va tomber dans un piège. C'est inadmissible.
C'est quoi le SIC dont tu as parlé? Moi, j'avais jamais entendu. Vas-y. Pour expliquer.
Information préoccupante.
Ok.
IP. Alors, il y a une stigmatisation. Moi, je le suis. J'ose le dire aujourd'hui là à la radio. Je suis certaine que il y a comme une épée de Damoclès pour les IP, pour sur la monoparentalité.
En fait, l'IP, c'est ce qui peut déclencher une enquête sociale.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça peut venir de partout. Donc là, on repart. Si le jugement de quelqu'un à l'école ou à l'extérieur, n'importe où. Je vais vous donner l'exemple. Moi, j'ai des enfants neuroatypiques. Si mon voisin ou je suis maman solo, il entend quelque, je sais pas, des conneries, quelque chose qui lui plaît pas. Oh ouais, mais elle arrive pas à se débrouiller avec. C'est un exemple, moi ou d'autres. Voilà. Alors que non, ça peut être multifactoriel. Et puis c'est pas facile. Des fois, on repart au sujet. Si on était aidé, moi là, j'ai pas besoin forcément, mais qu'il y a plein de femmes. Je pense, c'est ce que tu disais. Cette impression d'être piégée. Cette impression d'être piégé et de sentir qu'on va nous choper au virage, forcément, ça rajoute de la charge mentale. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Oui, parce que étant seule, donc forcément, on doit forcément, il va y avoir des problèmes avec les enfants, quoi, qui n'est pas le cas. Mais voilà, c'est comme ça. On ne se sent pas en sécurité, en tout cas.
Puis c'est pas comme si les familles biparentales étaient exemptes de problématiques.
Complètement.
Et on se demande aussi qu'est-ce que ça produit pour vous, enfin vous l'avez déjà un peu dit, mais de vous réunir dans ce groupe des mères aux eaux.
Moi j'ai trouvé comme une sorte de famille, de sororité. En plus on a de l'écho qui permet aujourd'hui de nous renforcer. C'est aussi le but de l'émission, enfin moi dans mon cas, pourquoi je viens auprès de vous aujourd'hui témoigner. C'est pour que toutes les femmes qui entendent se disent qu'on est plusieurs... on est toutes différentes, mais tous ensemble à vivre des choses qui se ressemblent. Voilà, chacune dans nos coins, souvent isolées, parce que forcément, on est bookés par la charge mentale et tout ce qu'on a à faire pour nos enfants. Et que ces réunions nous permettent de nous retrouver, de se parler tranquillement avec Marion Parra, qui est merveilleuse, qui est formée en plus à ça. On arrive à avoir des débats qui nous apaisent.
Voilà, cette sororité. Et puis, enfin moi, la première chose que ça m'a fait, la première fois que j'y suis allée, c'est que je me suis dit, ah mais, en fait, c'est vrai ce que je vis. En fait, c'était ça, c'était comme si ça validait ma souffrance, mes inquiétudes et tout. Je me dis, en fait, c'est vrai. Et puis Marion, voilà, sociologue, tout ça, elle met des mots là-dessus. Des fois, nous, ça part un peu dans tous les sens. Elle nous met des mots et tout. Je me dis, mais c'est ça. Et donc, ça, voilà, ça valide, ça soulage. Et puis, il y a des fois où on va pas bien, comme tout le monde. Mais donc, là, c'est un lieu où on peut décharger. Et puis, le fait d'en rencontrer d'autres mamans, on se rend compte qu'on a des histoires différentes, des vécus différents, mais on a les mêmes problèmes. Et donc, on cherche des solutions aussi. Ça permet aussi des petites choses,
Pour compléter sur ce que vous dites au sujet de l'importance de réunir, on peut écouter Sarah Le Bailly, qui fait partie, qui est mère isolée, qui est cofondatrice du groupe Les Mères des Terres. Elle répondait aux questions d'Éric Delvaux pour France Inter dans l'émission Une semaine en France, Les mamans solo, une mission impossible.
Les mères isolées ont parfois du mal à obtenir le versement pourtant dû de la pension alimentaire que doit verser le père. Au passage, est-ce que c'est le cas vous concernant ?
C'est tout à fait le cas et comme beaucoup d'autres pères, il organise son insolvabilité pour ne pas être entre guillemets pourchassé. Donc je touche comme bon nombre de familles l'ASF, l'allocation de soutien familial, mais je fais partie aussi de ce peu finalement de nombre de familles monoparentales qui touchent l'ASF puisqu'il faut pouvoir aller en justice pour pouvoir la toucher. C'est quelque chose qui fait partie des revendications aujourd'hui de la lutte des mères isolées, puisque faut pouvoir aller en justice, faut pouvoir avoir l'argent, c'est très compliqué.
Et vous militez pour un statut de mère isolée, un statut qui n'existe pas encore. Qu'attendez-vous de ce statut ? Pour qu'il change quoi ?
Il faut qu'il nous change la vie de manière transversale. Il faut qu'il nous change la vie sur le plan à la fois de la santé, d'accès aux droits, d'accès aux services publics, pas forcément, pour moi, ce que j'appellerais là une coquille vide hein, sur la carte monoparentale dont propose Monsieur Iacovelli. C'est pas suffisant, c'est de la poudre aux yeux. Nous, on veut des droits spécifiques qui soient attachés à un statut véritable, qui nous attache des droits et qui permettent à nos enfants de s'émanciper. C'est les maîtres mots de notre groupe, les Mères des Terres, c'est la dignité, l'émancipation, la justice sociale.
La revendication d'un statut de parent isolé est portée aussi par la collective des mères isolées, qui, pour ne pas que ce statut soit une coquille vide, réclame un Grenelle, c'est-à-dire des discussions et des négociations entre le gouvernement et les associations, travailleurs et personnes concernées et compétentes. Tous ces collectifs ont des propositions très claires et concrètes pour faire en sorte que les lois soient une aide et non un frein, mais aussi pour que les lois assurent une réelle protection du parent isolé et surtout du ou des enfants.
On voulait d'ailleurs terminer avec un témoignage qui nous montre comment les lois peuvent impacter de manière très concrète la vie de personnes déjà fragilisées. C'est le cas de Lucia, mère sans papier d'origine angolaise, qui est en France depuis 5 ans. Dans l'article « Mère sans papier » sur le blog de Mediapart de Léna Bulas, formatrice en droit des étrangers, Lucia raconte comment elle subit de plein fouet les dernières lois anti-immigration. Lucia, après un rejet de sa demande d'asile, dans lequel elle fondait ses espoirs, vit avec ses 3 fils. Elle a ensuite reporté ses espoirs dans une régularisation vie privée et familiale après 5 ans de vie en France. Mais la nouvelle circulaire vient de repousser encore de plusieurs années ses espoirs. Voici son témoignage.
C'est une mauvaise nouvelle. Comment vivre en France sans ressources, sans aide? Je n'arrive pas à apporter la stabilité à mes enfants. Ils ont grandi dans un foyer de passage, mais pour nous c'est devenu plusieurs années. Mon quotidien c'est une épreuve permanente. Je suis limitée en tout, j'ai toujours peur quand je sors. Peur d'être attrapée ou expulsée. Cela impacte mes enfants car à chaque fois je leur dis « Fais attention, évite chaque endroit où il pourrait y avoir un contrôle. » Alors qu'ils ont 17 ans, 21 ans, ils n'ont rien fait de mal. Ce sont des jeunes qui ont besoin de vivre, de sortir sans peur. Et dès qu'ils sortent, je ne suis jamais tranquille. Ils ne peuvent pas profiter des opportunités. Un de mes fils jouait au foot, il a été contacté par plusieurs clubs, mais lorsqu'il fallait faire un enregistrement officiel, il ne pouvait pas le prendre car il n'avait pas de titre de séjour. Ils vivent comme des citoyens de seconde zone. Mon fils voulait s'inscrire à la fac de droit après un baccalauréat général. Il était soutenu par ses profs, mais il n'a pas pu. L'université a refusé son inscription. C'est très compliqué pour moi et pour eux à accepter. On n'a pas le droit de vivre comme les autres. En tant que maman sans papier, j'aimerais pouvoir me libérer de ce système des titres de séjour. J'aimerais pouvoir travailler. J'ai beaucoup de qualifications dans mon pays, j'ai travaillé longtemps dans des entreprises françaises, mais je ne peux pas en tirer profit ici. Parce que je n'ai pas le droit au travail. J'aimerais avoir une vie comme tout le monde, contribuer, payer, et je ne peux pas.
C'est pour ça qu'il nous semble important de continuer à créer des solidarités et de mettre en commun ce qui se vit dans l'intimité des foyers. C'est pour ça que les lieux de rencontre ou d'échange représentent souvent le point de départ de ces luttes, l'endroit où on va puiser nos forces et les additionner pour construire un rapport de force. On vous dit au mois prochain pour continuer à parler famille et à explorer d'autres modèles. On remercie Clara à la régie pour l'enregistrement et on vous laisse en écoutant Diams.
Et merci mille fois à Frédérica et Sandrine d'être venues répondre aux questions de la collective.
Bah, merci à vous et j'adore ta conclusion, c'est parfait.
Tu vas comprendre pourquoi je ne jure jamais sur la tête de ma mère. Elle vaut beaucoup trop cher. Heureusement. Heureusement qu'on n'hérite pas des couilles de son père, sinon je serais dans la merde. Donc je dépose une couronne de diamants sur la tête de ma mère. J'ai dans le sang de quoi faire baliser la France. Mon histoire est indécente, elle commence à Roubaix en 1950. Voici mon sang, mon histoire qui dès le départ pue la victoire. De la fille à la grand-mère chez moi, à la loose, c'est rédhibitoire. Elles ont du cran, les femmes de ma trempe. Elles sont grandes, elles ont du tempérament. Elles sont belles donc ils s'en trompent. 21 ans, mon sang se barre, faire un tour chez les Beatles. Beatnik, petite femme seule, se mariant en 48 heures, lui c'est un violent guerrier du Moyen-Orient. Moyen-Âge dans son comportement, maman fait la guerre tout le temps. Là-bas à Chypre, si t'es une femme, tu cires les meubles. Et même si t'es ma mère, tu divorces ou tu fermes ta gueule. Alors tu rêves de voyage, t'y crois et tu persistes. Et grâce à Dieu, vous partez foutre dans le golfe Persique. J'ai dans le sang de quoi faire trembler la France. De Roubaix au Liban, de Nicosie en passant par Oman. Qui que tu sois, tu ne peux pas faire. Je suis la fille d'une guerrière, donc dépose une couronne de diamants.
sur la tête de ma mère, sur la tête de ma mère, sur la tête de ma mère, la tête de ma mère, la tête de ma mère. 1, 9, 7, 4, les Turcs viennent piller le pays. Un coup d'état et bim, Chypre ressemble à la Palestine. Ma famille c'est l'armée civile, tout le monde tire, tout le monde perd. L'ONU à l'arme et Simi s'étire un trait au stylo vert. 2009, je rends hommage aux miens tombés sous les bombes. Je suis né dans la dernière capitale divisée du monde. Alors mon sang se bat en aumont, besoin d'autre part. Je sais quel feu, c'est le chauffard dans le désert du Dauphard. Maman s'emmerde et se démerde, et pour occuper ses week-ends elle tire sur des canettes au AK-47 et M16. Ils se demandent pourquoi je kill quand je rentre dans la cabine. Normal, depuis gamine on tire à la carabine. Dommage, dommage pour les bédouins. Goodbye à Abu Dhabi, en Iran ou à Dubaï. Elle doute pas, l'Orient c'est sa vie. Plus tard elle trouve du taf dans le pays de la déroute. Mutation faite au Liban, mon sang part à Beyrouth. J'ai dans le sang de quoi faire trembler la France, de Roubaix au Liban, de Nicosie en passant par Oman. Qui que tu sois, tu ne peux pas faire. Je suis la fille d'une guerrière, donc dépose une couronne de diamants sur la tête de ma mère, 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 la tête de ma mère, la tête de ma mère. 7-8 démons s'enfuient parmi les ruines d'un pays en guerre civile. Les militaires viennent de Syrie, on est plus trop chez les ch'tis. Alors à l'est de Beyrouth, elle trouve une maison mitoyenne à la radio des Kataïev, milice chrétienne de Djemayel. Maman vit la guerre du quartier, peut plus sortir sans ses papiers. Une mitraillette la saisit, apeurée, maman est braquée déjà. La veille des snipers ont décommé son mur. Maman vit dans la cave car l'ambassade de France ne répond plus. Dehors ça tire dans tous les sens, maman en état de choc. Papa ne sort jamais sans son Glock, Glock, sinon ça pue la mort. Dans la cave on pleure, on prie, on récite des louanges. On cesse le feu et c'est parti. Maman rentre jusqu'à sa chambre, dehors c'est l'apocalypse. Le feu, la fume et les corps. Maman pleure son Liban et l'horreur qui le décore. Mon père repère des caméras, les journalistes profitent de calme pour filmer les dégâts. Alors ils sautent dans leur van, direction ouest où la vie suit son cours. À peine à quelques kilomètres de l'autre côté, on rit, on joue. Plus de 2000 obus à l'heure a été tiré à l'est, comme si à l'ouest le bonheur avait retourné sa veste.
C'était La Collective, une émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7.
Qui va faire le ménage? Et la réponse des féministes est très bien selon moi. Elle dit « Mais la révolution fera le ménage ».